بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، حياكم الله أيها الأحبة. Je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui le samedi le 6 du mois de l'Hijja de l'année 1446 de l'Hégire, correspondant au 23 mai 2026. Nous nous retrouvons par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala dans la lecture et l'étude de ce livre de Cheikh Salih al-Fawzan, qu'Allah prolonge sa vie dans son obéissance, intitulé « Tanbihatun ala ahkamin tahtassu bil mu'minat » dans lequel il a cité, il a fait un rappel sur des jugements spécifiques aux femmes croyantes. Donc, avant de commencer, on essaie de parler d'un point qui peut être bénéfique dans la relation du couple. Lakin, sachez, avant tout, sachez que la plupart des conseils concernent les hommes et les femmes avant le mariage. Car en général, quand on est marié, on peut apprendre quelques techniques pour diminuer les disputes et les conflits. Lakin, l'essentiel se fait avant le mariage, dans le choix. Le mari, il choisit bien son épouse. Sur les critères de religion, sur les critères de sa vision de dunya et de ses objectifs, sur les critères de personnalité, sur les critères de son état psychologique, et ainsi de suite. Tous ces choix doivent être faits avant le mariage et doivent être étudiés. Il y en a malheureusement, ce qui est constaté, c'est que les gens, quand ils ont l'envie d'avoir des relations intimes, ça peut être l'unique motivation afin de ne pas tomber dans le haram. Ça, c'est bien, mais c'est pas suffisant. Il faut qu'on soit préparé, homme comme femme, au mariage. Sinon, on se marie pas tant qu'on n'est pas préparé. Car si on se marie alors qu'on n'est pas prêt, ça va faire plus de mal que de bien. Et la préparation, c'est une préparation religieuse, en connaissant les droits et les devoirs. C'est une préparation psychologique à ce que c'est le mariage. C'est une préparation matérielle pour le mari. D'autres domaines également. Donc en tout cas, le mariage d'une nuit se prépare en une année. Zouaj lila tadbiru am. C'est comme ça ils disent dans une sagesse marocaine. Et c'est vrai. C'est pas, le frère, il voit la sœur, elle lui plaît, le lendemain c'est le mariage. Il y a une enquête qui doit être menée. Des renseignements qui doivent être collectés avant de s'engager dans cette relation dans laquelle le mari, il choisit la mère de ses enfants et s'accompagne dans ce long voyage rempli de difficultés et d'obstacles. Cette relation pour la vie. C'est ça notre intention lors du mariage. On se marie pour la vie. On ne se marie pas pour essayer, pour tester, pour voir ce que ça va donner. Tout ça, c'est des mauvaises intentions en général qui se terminent par le divorce. On se marie parce qu'on est convaincu qu'on a trouvé la bonne personne. Et malgré qu'on soit convaincu qu'on a trouvé notre moitié, faut être conscient qu'on va avoir des problèmes. là qui ne sait pas les mêmes problèmes que celui qui se marie avec son opposé. Donc, ça c'est pour le mari, mais également pour l'épouse. Elle choisit le mari, yani, à qui elle va donner, yani, à qui elle va appartenir. الذي تملكه نفسها. Donc, yani, celui qui va partager sa vie, qui va être le père de ses enfants, qui va être son soutien après Allah subhanahu wa ta'ala. Elle choisit, elle fait bien son choix, également lui aussi, il doit faire bien son choix pour minimiser les problèmes dans le couple. Mais les problèmes, ils vont toujours avoir lieu. Lakin, quand on a une base commune solide, on a choisi une personne qui nous convient, religieusement, qui nous convient dans les autres domaines, on arrive plus facilement à surmonter les difficultés. Donc le mariage, c'est certes une envie de se marier. Et cette envie, c'est pas avec des paroles. Faut qu'elle soit prouvée. Faut qu'elle soit prouvée. C'est pour ça, c'est le droit de la femme d'exiger une dot qui correspond à son statut social. Yani, c'est triste, je l'entends des fois, yani, ça découle en général d'une mauvaise compréhension. Certaines sœurs, yani, comment l'exprimer sans que ce soit mal interprété? Yani, comme si elle se donne comme ça gratuitement pour un homme. Non. Elle va prendre en charge les dépenses, elle va payer le loyer, elle va faire... Et le mari fait quoi? Même si la femme a les moyens, elle ne fait pas ça. Elle se marie avec un homme qui va subvenir à ses besoins. Et après, par la suite, si elle veut l'aider et participer, après c'est son choix. Mais ce n'est pas obligatoire pour elle. C'est le devoir du mari. Aussi, il faut qu'on ait une volonté, une détermination à se marier. Ce n'est pas « j'ai l'envie », mais au premier obstacle, je cède, je fais marche arrière. Non. Et aussi, ça demande d'avoir une certaine capacité à concrétiser ce grand projet, le plus grand projet dans notre vie. Le projet du mariage et de fonder une famille stable, apaisée, qui vit dans l'amour et dans la sérénité et la quiétude. Faut avoir la capacité. Il suffit pas d'avoir l'envie et d'avoir la détermination, une grande volonté. Faut voir la capacité, notamment la capacité financière, la capacité psychologique. C'est pour ça, Annie, souvent, on se marie sans avoir la capacité psychologique de se marier. On n'est pas prêt psychologiquement au mariage. La femme, elle se marie, des fois, elle n'est pas prête à obéir à un homme. Tu te maries, t'obéis à ton mari. Si tu ne veux pas obéir à un mari, alors ne te marie pas. Et le mari aussi, il se marie pour prendre soin de son épouse et veiller sur elle et la protéger. Il lui garantir la sécurité, l'assurance dont elle a besoin. Et de subvenir à ses besoins. Si t'es pas capable, ne te marie pas. Donc on se marie pour devenir, pour former une seule entité. On se marie pour former une seule entité. Donc il faut qu'il y ait la capacité également. et tous les sens de la capacité sont demandés ici. Il faut qu'on ait une stabilité avant de se marier, une stabilité psychologique. Une femme ou un homme qui a subi des traumatismes lors de son enfance ou là dans son précédent mariage, avant de rentrer dans une nouvelle relation, faut qu'il aille se soigner. Faut qu'il retrouve une stabilité psychologique pour ne pas faire du mal à son partenaire. Et cette stabilité psychologique, elle est nécessaire pour arriver à un équilibre sentimental qui va donner lieu à une stabilité dans la famille. Chose qui est très importante pour les enfants. Également, nous avons besoin d'apprendre ce qu'on appelle la souplesse. D'avoir une souplesse dans nos relations. La femme, il ne faut pas qu'elle s'imagine qu'elle trouve un homme à 100%, qui correspond à 100% à ce qu'elle veut. Cet homme, elle va le trouver au paradis. Et le mari également, il faut qu'il sache qu'il ne trouvera pas une femme qui correspond à 100% de ses envies. La femme, déjà, elle est différente de l'homme dans sa nature. Et peut-être qu'elle vient d'un milieu différent. Peut-être qu'elle a une éducation différente. Et un vécu différent de celui du mari. Donc, il faut qu'on fasse tous les deux preuve d'une certaine souplesse. Et ça, c'est nécessaire pour la stabilité du couple. Donc l'homme, il commence à faire les premiers pas pour se marier, car il a besoin d'une femme auprès de laquelle il va retrouver le repos de l'âme et la quiétude, comme Allah a dit. Et il sent en lui-même qu'il est capable de trouver une femme et de former et de fonder une famille. Il voit en lui la capacité de faire ces choses-là. Et parmi les règles, peut-être que je vais me limiter à ça, je vais citer une seule règle extrêmement importante et qui peut garantir en grande partie un épanouissement et un bonheur dans nos couples. C'est d'apprendre à se taire. D'apprendre à se taire. Il faut savoir qu'il n'est pas nécessaire entre les époux de répondre à tout ce que son partenaire dit. Le Nabi alayhi salam sallam dit: Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut. Que celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise. Apprendre à se taire et se contenter d'écouter tout simplement. Écouter pour écouter tout simplement. Et non pas écouter pour répondre. Et ça, c'est quelque chose qui est constaté. Entre les époux, la femme, dès que son mari il commence à parler, elle écoute, mais elle prépare les réponses. Et le mari de même. Il faut qu'on apprenne à écouter tout simplement pour écouter. Et ça permet de s'entendre. On s'écoute pour s'entendre et non pas pour répondre. Donc, j'écoute mon mari quand il me parle. Et je me dis, pendant qu'il parle, je ne réponds à rien. Je ne fais aucune remarque, ni positive ni négative. Je l'écoute tout simplement. Et lui aussi, il apprend à écouter son épouse. Donc, et non pas à chaque fois on écoute, on prépare la réponse, on critique, on dit ça c'est une injustice, ça c'est pas juste. Donc la femme, même si elle a des grandes responsabilités, même si c'est une femme d'affaires, il faut qu'elle sache que quand elle est dans son foyer avec son mari, c'est une épouse obéissante. Et pour qu'elle soit une épouse obéissante, il faut qu'elle choisisse bien le mari auquel elle va pouvoir obéir facilement. Ça, c'est son droit. Qu'elle choisisse le mari auquel elle va obéir facilement. Taïb, par rapport à ce qu'on a déjà vu de ce livre de Cheikh Al-Fawzan, Hafidhahullah, il a parlé de 5 conditions du voile de la femme. Et dans le deuxième point, il a défini le voile, il a mentionné les arguments et quelques profits du voile et quelques profits du voile pour la femme. Il a dit al-hijab ma'naahu an tastura al-mar'atu badanaha 'an ar-rijal alladhina laysu min maharimiha. Donc qu'est-ce que veut dire que veut dire le voile? Il a dit le voile, son sens, c'est que la femme va couvrir son corps des regards des hommes qui ne font pas partie de ses maharim. Et comme on a déjà vu, le maharim, c'est les hommes qu'elle ne peut jamais épouser à vie. Comme son père, comme son frère, comme son oncle maternel, paternel, comme le mari de sa mère, comme le mari de sa fille. Et par contre, le mari de sa sœur ne fait pas partie de ses maharim, car elle ne peut pas l'épouser temporairement, tant qu'il est marié avec sa sœur. S'il se sépare de sa sœur ou sa sœur est décédée, il n'y a aucun mal à ce qu'il épouse l'autre sœur. Au contraire, les Arabes, ils avaient recours à cela, car épouser la sœur, surtout quand il a des enfants avec sa femme, épouser sa sœur, ça sera une épouse et une tante maternelle pour ses enfants. Donc, elle va veiller sur les enfants. طيب ولا يبدين الله عز وجل دي ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمورهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن. Donc Allah سبحانه وتعالى nous dit dans le sens approximatif de ce verset, et qu'elle ne montrent pas leurs atours qu'à leur mari ou au père de leur mari. À leur mari ou à leur père, ou au père de leur mari, ou à leur fils, ou au fils de leur mari. Au fils de leur mari, ou à leur frère, ou au fils de leur frère, ou au fils de leur sœur. Et Allah Azza wa Jalla dit également, وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ. Dans le sens approximatif, si vous leur demandez une chose, demandez-le leur derrière un rideau, derrière un voile. Et ce qui est voulu par le voile ici, c'est ce qui permet de cacher la femme, ما يستر المرأة. Que ce soit un mur ou une porte ou un vêtement. Donc tout ce qui permet de cacher la femme. ولفظ الآية وإن كان واردا في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فإن حكمه عام لجميع المؤمنات. شيخ الفوزان حفظه الله وأطال الله عمره على طاعة dit, même si ce verset vise dans un premier temps les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faut savoir que son jugement s'applique à toutes les croyantes. Son jugement s'applique à toutes les croyantes. لِأَنَّهُ عَلَّلَ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ تَعَالَى ذَلِكَ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنْ. Car Allah subhanahu wa ta'ala a justifié cet ordre. Pourquoi la femme, elle se couvre et elle se voile, il l'a justifié par le fait que ceci est plus pur pour vos cœurs. Atharu li qulubikum, pour vos cœurs, concernant les hommes et pour les femmes également. Le fait que la femme soit voilée, ceci est plus pur pour les cœurs des femmes et des hommes. Et cette justification est valable pour toutes les autres femmes. Ce n'est pas spécifique aux femmes du prophète alayhi sallam qui ont besoin d'avoir le cœur pur et de ne pas être la cause de la tentation des hommes. Ça, c'est valable pour tout le monde, pour toutes les femmes. C'est pour ça son jugement est général. Donc ça, c'est par rapport à ce verset. Là, que nous avons d'autres versets où ceci est cité explicitement. C'est pour ça la règle chez les savants de tafsir, l'exégèse du Coran, ils disent « Al-ibratu bi'umumi al-lafzi la bi'khususi al-sabab ». Ce qui compte, c'est le sens général du terme et non pas la cause spécifique par rapport à laquelle ce texte a été révélé. Donc la cause par rapport à laquelle a été révélée, c'est les épouses du prophète alayhi salam. Mais son jugement est valable pour toutes les croyantes, pour la raison que Cheikh a citée, et aussi parce que les épouses du prophète alayhi salam sont l'exemple pour toutes les croyantes. Dans l'autre verset, où ce jugement est cité explicitement, Allah subhanahu wa ta'ala dit « Ya ayyuhan nabiyyu, qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina alayhinna min jalabibihin. » Allah subhanahu wa ta'ala dit à son noble prophète « Ô prophète, dis à tes épouses, à tes filles et aux femmes des croyants. » Donc, elles sont mentionnées ici explicitement. « Dis-leur de ramener sur elles leur grand voile. » De ramener sur elles leur grand voile, al-jalabib. Cheikh l'Islam Taymiyyah a dit, par rapport à l'explication de ce que c'est le jilbab, il a dit, al-jilbabu huwa al-mula'a. Il a dit, al-jilbabu huwa al-mula'a. Yani al-jilbab, qu'on peut traduire par le grand voile, c'est al-mula'a, c'est une couverture. C'est une couverture. طيب. هو الذي يسميه ابن مسعود وغيره الرداء وتسميه العامة الإزار. الرداء الجلباب, c'est ce que ابن مسعود رضي الله عنه appelle الرداء. Et c'est ce que les gens appellent, yani les gens de la masse d'une manière générale, appellent al-izar. Et c'est quoi al-rida, al-izar, al-jilbab?
Il a dit, هو الإزار الكبير الذي يغطي رأسها وسائر بدنها. Là, il l'a expliqué d'une manière très claire. Il a dit, c'est le grand Izar dont la femme se couvre la tête ainsi que tout le reste de son corps, avec lequel elle va se couvrir de la tête aux pieds. C'est ça le djilbab, qui va partir de la tête et aller jusqu'aux pieds.
وقد حكى أبو عبيدة وغيره أنها تدنيه من فوق رأسها فلا تظهر إلا عينها ومن جنسه النقاب.
أبو عبيدة معمر بن المثنى parmi les grands savants de la langue arabe a dit concernant le jilbab, il a dit c'est ce que la femme porte de la tête et elle le fait descendre de sa tête, elle le ramène jusqu'à ne rien laisser apparaître de son corps excepté ses yeux. Excepté ses yeux ou l'a excepté son œil. Et yani ça englobe également ce qu'on appelle un niqab. Un niqab. Niqab qui couvre le visage, excepté les yeux, ou là, un œil.
ومن أدلة السنة على وجوب تغطية المرأة وجهها عن غير محارمها.
Parmi les arguments rapportés dans la tradition de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui indique l'obligation que la femme couvre son visage en présence d'autres hommes que les maharim,
hadith Aisha radiallahu anha, dans lequel elle dit كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات.
Donc notre mère Aisha radiallahu anha, elle dit que les gens passaient devant nous alors que nous étions avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, le visage découvert. Et lorsqu'ils se rapprochaient d'eux, des femmes,
فَإِذَا حَاذَوْ بِنَا سَدَلَتْ إِحْدَانَا جِلْبَابَهَا مِنْ رَأْسِهَا عَلَى وَجِهَا.
Et quand ils se rapprochaient d'eux, ils étaient à une distance, ils pouvaient les voir, qu'est-ce qu'elle faisait, Aïcha radiallahu anha, ainsi que les autres femmes, elle sadalat ihdana. Elle a dit sadalat ihdana. Elle laissait tomber son grand voile de sa tête jusqu'à couvrir son visage.
Fa'idha jawazuna kashafnahu.
Et une fois qu'il les dépassait, Aïcha radiallahu anha a dit, on découvrait à nouveau nos visages. Elle retirait ce sadl. Et elle découvrait les visages. Donc ça, ce hadith indique que les femmes croyantes, y compris les épouses du prophète, couvraient leur visage en présence d'hommes étrangers, les maharim.
وأدلة وجوب وأدلة وجوب ستر وجه المرأة عن غير محارمها من الكتاب والسنة كثيرة.
Et les arguments qui indiquent l'obligation que la femme couvre son visage en présence des hommes étrangers dans le livre d'Allah et la Sunna du prophète عليه الصلاة والسلام authentique sont très nombreux. Et Cheikh, au lieu de citer plusieurs arguments ici, dans cet ouvrage qui est concis, il a renvoyé la femme croyante
qui veut connaître plusieurs arguments vers des livres des hommes de science. Il a cité le livre de Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, dans lequel il a parlé du voile de la femme et de sa tenue vestimentaire durant la salat. Et ça, c'est important. C'est important de savoir qu'il y a une différence entre la tenue que doit porter la femme pour se voiler des regards des hommes étrangers, quand elle est dehors ou là, quand elle est chez elle en présence d'hommes étrangers, et la tenue qu'elle doit porter lors de la salat. Il y a une différence entre les deux. Et Cheikh l'Islam, il parle dans cette risala, il parle de ce point. Également, il a renvoyé vers risala de Cheikh Ibn Baz, qui s'intitule « Hukm al-Sufuri wal-Hijab », le jugement de découvrir le visage et du voile. Également vers risala de Cheikh Hamoud Twijri, rahimahullah ta'ala, parmi les grands savants salafiyin, qui s'appelle « As-Sarim al-Mashhur al-Maftounina bis-Sufur », dans lequel il a réfuté ceux qui voient l'autorisation de découvrir le visage. Et risala de Cheikh Uthaymeen, qui est intitulé « Risalat al-Hijab », dans laquelle il a parlé du voile et de ses conditions. « Faqad tadammanat hadhihi ar-rasa'il ma yakfi » Donc il dit que ces rasa'il, pour celui qui les étudie, sont suffisantes pour connaître la vérité par rapport à ce point. Et comme vous le savez, ce point est un point de grande divergence entre les savants, anciens et contemporains. Et dans ces questions-là, le devoir du croyant, c'est d'étudier les deux avis. L'avis qui dit que la femme doit couvrir obligatoirement son visage dans tous les cas. Et l'autre avis qui dit que couvrir le visage pour la femme, dans tous les cas, est une chose fortement recommandée et non pas obligatoire. Sauf dans un seul cas où même ce deuxième groupe des savants disent que ça devient obligatoire. Lakin, à la base, pour eux, c'est fortement recommandé. Et ça indique plus de chasteté et plus de piété. Et c'est meilleur. Car tous les savants ne divergent pas que sahabiyat et à leur tête les épouses du prophète alayhi sallam couvraient leur visage. Et même le savant qui a défendu le plus, à ma connaissance, cet avis, à notre époque, qui est Cheikh al-Albani, ses épouses couvrent leur visage. Lakin Cheikh al-Albani, ce qu'il visait, c'est de montrer ce jugement. Donc ça reste une question de divergence dans laquelle on étudie les deux avis et on choisit ce qui nous semble le plus proche de la vérité, tout en sachant que dans les deux cas, c'est meilleur de couvrir le visage de la femme. Mais il y a un cas, on va le voir, Cheikh Fawzan va le mentionner, dans lequel tous les savants s'accordent à dire qu'il est obligatoire de couvrir le visage. Dans ce cas-là, ils ne divergent pas. Il a dit « Wa'lami ayyatuha al-ukhtu al-muslima anna alladhina abahu laki kashf al-wajhi min al-ulama ma'a kawni qawlihim marjouha » Il dit « Sache, sœur muslima, sache que les savants qui ont autorisé que la femme découvre son visage. Les savants qui ont cet avis, que ce n'est pas obligatoire de cacher le visage et de le couvrir. Donc ceux qui ont vu que c'est autorisé de le découvrir et c'est seulement recommandé de le cacher. Même ces savants-là, malgré que leur avis est faible, Cheikh Fawzan dit, malgré que leur avis est faible, قيدوه بالأمن من الفتنة. Ils ont mis comme condition pour que ce soit autorisé d'être à l'abri de la tentation. D'être à l'abri de la tentation. Et Cheikh dit, et la tentation n'est pas... Et Annie dit, et on n'est pas à l'abri de la tentation. Surtout à cette époque... Surtout à cette époque qui est notre époque où les tentations sont devenues nombreuses et la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala a diminué, affaibli. Chez les hommes comme chez les femmes. Et la pudeur a diminué également. Et la pudeur a diminué chez les gens également. وَكَثُرَ فِيهِ دُعَاتُ الْفِتْنَةِ Et que les prêcheurs de l'égarement et de la tentation sont devenus très nombreux à cette époque.
وَتَفَنَّنَتِ النِّسَاءُ بِوَضْعِ أَنْوَاعِ الزِّينَةِ عَلَى وُجُوهِهِنَّ مِمَّا يَدْعُو إِلَى الْفِتْنَةِ
Et que les femmes, à notre, il part toujours de notre époque, que les femmes se concurrencent à s'embellir et à... Elles se concurrencent à s'embellir et à orner leur visage de toute espèce de parure, chose qui fait tomber forcément dans la tentation. Il a dit, soit on garde sœur muslima, soit on garde contre cela. Et tiens-toi et attache-toi à ton voile qui te préserve avec la permission d'Allah de toute tentation. Et il n'y a aucun savant parmi les savants de l'islam considéré que ce soit parmi les anciens ou les contemporains, qui autorisent à ces femmes tentées et tentatrices ce qu'elles font aujourd'hui. Même les savants qui voient que c'est autorisé de découvrir le visage et que ce n'est pas une obligation, ils n'autorisent pas ce que font ces femmes desquelles parle Cheikh Al-Fawzan, qui s'embellissent et qui mettent des produits sur leur visage et qui montrent le visage d'une manière meilleure comme il est dans la réalité. Et il n'y a pas non plus un seul savant parmi les savants considéré, que ce soit parmi les anciens ou les contemporains, qui autorise à ces femmes musulmanes leur agissement qui indique une certaine hypocrisie vis-à-vis du voile. C'est quoi cette hypocrisie vis-à-vis du voile? Vous savez que l'hypocrite, c'est celui qui montre l'inverse de ce qu'il cache. Ça, c'est la définition de nifaq. Donc, qu'est-ce qu'elles vont faire, ces femmes qu'il décrit ici? Elles vont se tenir au voile quand elles sont dans une société où les femmes respectent le voile. Mais dès qu'elles vont dans une autre société où les femmes ne se voilent pas, elles vont abandonner leur voile. Et d'autres femmes, elles vont porter le voile quand elles sont dans des lieux publics. Mais quand elles rentrent dans des supermarchés, dans des magasins, ou dans des hôpitaux, ou quand elles parlent avec des bijoutiers, ou quand elles se rendent chez le tailleur, par exemple, pour faire des vêtements, elles vont découvrir leur visage et même leurs bras et montrer à ces gens ce que la femme ne montre en temps normal qu'à son mari ou les hommes parmi ses maharim. Donc il les invite à craindre Allah subhanahu wa ta'ala et à respecter leur voile partout. Et il rapporte son témoignage, il dit « Wa laqad shahadna ba'd an-nisa'i al-qadimati fi at-ta'irati min al-khariji la yahtajibna illa 'inda hubut at-ta'irati fi ahad matarat hadhihi al-bilad. » Il a dit qu'il est témoin et qu'il a vu certaines femmes qui voyagent en avion et qui viennent de l'extérieur de l'Arabie Saoudite vers l'Arabie Saoudite et qu'elles ne portent leur voile qu'une fois que l'avion atterrit, une fois que l'avion atterrisse dans les aéroports d'Arabie Saoudite. Et ça, c'est quelque chose que j'ai vu souvent, Wallah al-Musta'an également. Des femmes qui ne portent pas le voile, mais dès que l'avion atterrit, elles vont porter leur voile. Et pour ces femmes, ou bien elles le portent juste parce que c'est obligé de le porter en Arabie Saoudite, ou c'est des femmes ignorantes pour lesquelles le voile est une simple habitude et non pas une pratique religieuse. Cheikh il dit, ayyatuha al-muslima, ô femme muslima, inna al-hijab yasunuki min an-nazarat al-masmuma. Il dit, ô femme muslima, le voile te protège des regards empoisonnés. Le voile te protège des regards empoisonnés de ceux dont le cœur est malade parmi les hommes et des chiens de l'espèce humaine. Kilab al-Bashar, qui ne cherche qu'une victime à dévorer, comme des chiens. Wa yaqta'u 'anki al-atma' al-mas'ura, également le voile te débarrasse des envies et des désirs des hommes non contrôlés, enragés. Falzami, alors attache-toi à ce voile. Watamassaki bihi. Et préserve ton voile et fais attention à ton voile partout où que tu sois. C'est une adoration avec laquelle tu te rapproches d'Allah subhanahu wa ta'ala, avec laquelle tu te préserves et tu préserves autrui également. Wala taltafiti lid-di'ayat al-mughrida allati tuharib al-hijab. Et n'accorde aucune attention aux propagandes tendancieuses qui combattent le voile ou qui minimisent la valeur du voile. فَإِنَّهَا تُرِيدُ لَكِ الشَّرُ كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا. Car ces gens-là, ils veulent pour toi le mal, comme Allah a dit dans le Coran, dans le sens approximatif, mais ceux qui suivent les passions veulent que vous vous inclinez grandement vers l'erreur, comme ils le font. Les femmes déviantes aimeraient que toutes les femmes deviennent comme elles. Les femmes fornicatrices aimeraient que toutes les femmes deviennent ainsi. Les femmes qui ne portent pas le voile aimeraient que toutes les femmes deviennent comme elles. Et ça, c'est dû à la maladie de leur cœur et à leur égarement. Non seulement elles sont dans le mal, mais elles aiment que les autres femmes soient aussi dans le mal. Et ça, c'est un degré plus grave que celui de la femme qui est tout simplement dans le mal, mais qui souhaite le bien pour les autres. et qui espère qu'Allah lui accorde le repentir sincère. Et on espère beaucoup de bien à ce genre de femme. Là, une femme qui est dans le mal et qui est dans les vices et qui aime que le vice soit propagé et qui déteste la vertu et le bien, elle est dans un immense danger. Nas'alullah as-salama wa al-afiyah. Taïb, on a passé 45 minutes. Peut-être qu'on va s'arrêter ici. Et on va parler dans notre prochain cours, inshallah ta'ala, des règles concernant la femme dans la salat. Les règles spécifiques à la femme dans la salat. Donc, voilà pour aujourd'hui. Barakallahu fikum. Jazakumullahu khairan. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته